Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le Practice RMC saison 4. La Dream Team, vous le savez, est présente deux fois par semaine pour commenter l'actualité des plus grands tournois, des plus grands champions. Notre envie aussi, à vous aider à progresser dans votre golf avec nos partenaires UGolf, Blue Green et Callaway. On vous conseille sur la technique, sur le matériel et nous répondrons à toutes vos questions. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, quel plaisir de vous retrouver pour le podcast Le Practice RMC. Pour découvrir des contenus, des conseils, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du Practice RMC, l'épisode 48, la fin de la malédiction pour Tommy Fleetwood, qui gagne enfin sur le PGA Tour. Et quelle victoire, l'Anglais remporte tout simplement la FedEx Cup, le tout à un mois de la Ryder Cup. On en parle avec la Dream Team. Aujourd'hui, Fabien Denoyan, UGolf Blue Green, notre prof Ramucho Artola, notre éditorialiste Martin Coulon et un ami du Practice RMC, le boss de Golf Planet, François Simeka. Salut les amis, ça va ?
Salut, salut JC.
Ça gaze ?
Ben oui, très bien.
Salut les mecs, salut JC.
Très heureux de vous retrouver. François, tu connais la bande, t'es ici comme chez toi, tu le sais. Un peu tendu ou pas de revenir dans le Practice RMC ?
Non, ça va, tout va bien. On sort de l'été, tout va bien. Comment je pourrais être tendu ?
Il y a la Ryder Cup qui arrive.
Que des belles échéances.
On a très envie, évidemment, de vous parler de golf et de vous parler aussi de Tommy Fleetwood, qui a donc remporté enfin un tournoi ce week-end. C'est l'heure, donc, maintenant, du patient anglais.
And that's not a lot of speed, but good enough. The agonizing wait is over. Fleetwood, finally, for everything, the FedEx.
Le Practice RMC.
Rendez-vous compte, 6 deuxième places, 30 top 5 et enfin la gloire pour Tommy Fleetwood qui a donc remporté dimanche son premier succès en carrière sur le PGA Tour. L'anglais s'est adjugé le Tour Championship, le dernier tournoi de la saison et donc dans le même temps la FedEx Cup, un sacre, une consécration pour ce joueur de 34 ans qui faisait des ravages, vous le savez, sur le DP World Tour mais qui ne s'était jamais imposé sur le PGA Tour. Déjà un premier commentaire, une première observation, ce que vous avez ressenti pour Tommy Fleetwood qui tournait autour cette saison avec deux deuxièmes place et on avait mal au cœur pour lui, on était désespéré pour lui et enfin ça gagne. Martin.
Toute proportion gardée, moi j'ai ressenti la même chose que j'ai ressenti pour Rory McIlroy, dans le sens où c'est une victoire de résilience absolue, c'est une victoire de mec qui se prend les pieds dans le tapis depuis 164 tournois sur le PGA Tour, c'est la victoire du gars qu'on attend depuis trop longtemps en fait. Alors évidemment on parle pas de carrière Grand Slam comme l'a fait Rory, on parle pas de Masters etc, on parle entre guillemets que d'une première victoire sur le PGA Tour. Mais pour Tommy Fleetwood, c'est une vraie délivrance, quoi. Tu sentais vraiment cette espèce de côté. C'est pas possible qu'ils se prennent autant les pieds dans le tapis. C'est pas possible qu'ils se prennent autant de portes dans la tronche et qu'ils n'y arrivent pas, surtout avec son attitude, surtout avec la manière qu'il a de constamment repartir au charbon comme il l'a encore fait. Et là, que les choses se mettent enfin dans le bon sens pour lui, il y a eu un gros ouf de soulagement quelque part, quoi.
François Simeka, je te voyais réagir tout de suite. Pour toi, c'est identique, c'est les mêmes émotions que Rory il y a quelques mois.
Toute proportion gardée, comme l'a dit Martin, on a tremblé devant notre écran. On avait tous envie qu'il gagne, même les Américains, pourtant très chauvins, qui à un mois de la Ryder Cup, il y a une ambiance un petit peu électrique entre Européens et Américains. Et tout le monde était derrière Tommy Fleetwood. Et le voir enfin s'imposer, ça fait vraiment un soulagement, un peu à l'image de ce qu'on a ressenti quand Rory s'est imposé au Masters en avril. Alors effectivement, oui, il a tourné autour, mais surtout les désillusions de ce dernier mois avec ce qui s'est passé à Memphis, alors qu'il aborde le tournoi en tête. Et là, tout le monde se dit, cette fois-ci, c'est pour lui. Il y a trois mois, quand il perd sur le dernier trou face à Keegan Bradley en faisant une erreur assez colossale pour un joueur de son niveau, on se dit c'est pas possible, c'est un déchirement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il a montré en interview, il n'a pas hésité à dire « Oui, je souffre, c'est dur, mais je vais rebondir, je suis sûr que je vais rebondir, elle fait mal celle-là. » Et il l'a fait, il nous l'a prouvé à tous, c'est possible. On peut se relever de tels échecs.
Alors même quand on parle de Tommy Fleetwood, on attaque ce podcast et vous le savez, on l'adore, c'est Rory McIlroy. Et donc on en vient toujours à Rory McIlroy. Donc forcément, je vais voir Fabien Denoyan parce que j'ai envie de savoir s'il a ressenti des émotions hier avec cette victoire de l'Anglais.
Mais écoute, moi c'est beaucoup plus fort et ça n'a rien à voir avec les critiques parfois que je fais sur Rory. Je trouve que ce qu'a montré Tommy Fleetwood, c'est un exemple de sport, c'est un exemple de golf. Et Et très sincèrement, je devais me lever à 4h du matin pour aller prendre mon avion ce matin. Autant vous dire que j'ai regardé jusqu'à la fin, que j'ai eu du mal à m'endormir parce que ce mec-là m'a filé des frissons, m'a fait lâcher une larme parce que être capable de jouer un golf de ce niveau depuis un mois, parce que quand on regarde les places qu'il fait sur les 3, 4, 5 derniers tournois, mais c'est même pas... Enfin, on peut tous se mettre à genoux, on peut tous implorer Tommy Fleetwood parce que il a prouvé que parfois perdre, eh ben, ça va te faire gagner. Et je trouve que dans toutes les interviews, encore celle d'hier, il prouve à quel point, Martin, tu l'as dit, la résilience, François aussi, je perds. Et moi, il a mis un truc au centre. Est totalement au centre et c'est valable dans le sport, c'est valable dans le golf, c'est valable pour l'éducation de nos enfants et c'est aussi valable dans l'entreprise. C'est que j'apprends dans la défaite et je ne cesse de travailler, et mon heure va arriver. Et encore une fois, comme il l'a dit sur le parcours, cette agilité à un moment donné sur les 9 premiers à ne pas être dans le ballon, de dire ok, je vais changer un peu ma routine, je vais changer un ou deux trucs, et d'ailleurs on l'a vu faire 2-3 practice swing pour un peu chercher son retour. Fantastique, énorme, et je vais même vous faire une confidence, j'étais pas très européen pour la Ryder Cup, vous le savez, mais ce gars-là, j'ai envie de le soutenir, et je me demande si aujourd'hui j'ai pas envie que l'Europe gagne pour montrer que ce type est incroyable.
Alors là, c'est une vraie info que nous donne Fabien Donoyon. Parce qu'on sait, on va beaucoup vous parler de la Ryder Cup dans le Practice RMC, évidemment, qui va arriver dans un mois. D'ailleurs, le prochain numéro va être consacré à l'équipe européenne. Il va être diffusé vendredi, donc vraiment, restez à l'écoute. Et c'est vrai que Fabien est souvent le seul qui est pour les États-Unis, mais c'est ce qui nous met le sel et le piment dans nos débats. Mais là, avec cette victoire de Tommy Fleetwood, peut-être qu'il peut basculer du côté européen. Un premier mot aussi, Ramucho Artola, sur cette victoire que l'on attendait même presque pas, surtout à ce moment-là, surtout sur le dernier tournoi de la saison. On s'est dit, bon, sa chance est passée pour cette année.
Oui, je ne vais pas revenir sur l'extraordinaire victoire de Fleetwood, comment il l'a construite avec tous ses échecs, tout ça. Il a pris le meilleur de ses échecs. À chaque fois, il dit, à chaque fois que je me plante, ben, c'est un point positif pour le tournoi suivant. Et effectivement, là, c'est arrivé en apothéose avec le Tour Championship.
C'est vrai, mais ça, c'est un peu la méthode Coué. C'est-à-dire tout le monde dit ça, c'est un joueur, il dit, bon, ça va planter un jour, mais il a du gamberger quand même.
Ah oui, c'est clair, il a du gamberger et il met en avant son côté humain, son côté résilient, et ce qui plaît à tout le monde. Et je trouve, pour finir avec le parallèle avec Rory, qu'il fait encore plus l'unanimité que lors de la victoire de Rory au Masters. Parce qu'il met en avant l'humain, il prend moins position que Rory, il est moins clivant dans ses déclarations, etc. Donc effectivement,
ouais, mais il est moins superstar aussi.
Même les... Oh, enfin, ça devient quand même quelqu'un d'incontournable. Hein. Il n'y a pas le palmarès de Rory.
Ah
mais,
oui. Ouais, on est loin.
Mais je ne vois pas, je n'ai pas lu, vu, entendu un seul début de phrase, ni un tant soit peu critique sur sa victoire. Tout le monde est heureux pour lui. Et encore plus heureux peut-être que pour la victoire de Rory et son Masters au mois d'avril.
Et pour sa victoire, vous avez vu, sur le bord du green, il y avait Justin Rose, il y avait Sean Lowry, évidemment, ses copains de Ryder Cup. Mais moi, j'ai été étonné au moment de sa victoire. Je m'attendais un peu, parce que vous faites le parallèle avec Rory, un peu à une explosion de joie, de sentiments, comme Rory.
Non, il est resté très digne.
Ouais. Et en fait, il est resté très, très sobre, comme s'il avait gagné la semaine d'avant.
Exactement, ouais. C'est vrai que c'est étonnant. Hein.
Mais tu peux presque te dire que ça fait partie de cette fameuse notion que ces grands sportifs-là ont du process. Tu es tellement dans tu fais les choses les unes après les autres, tu enchaînes les performances les unes après les autres, parce que... On ne se rend pas forcément compte, mais ce qu'a fait Tommy Fleetwood, en particulier pendant les playoffs de cette FedEx, c'est exactement les mêmes résultats qu'un certain Scottie Scheffler, ouais, qui est le maître du monde golfique absolu. Il fait 3-4-1 pendant les playoffs et Scheffler, dans le même temps, fait 3-1-4. Ils font exactement les mêmes résultats. Bon, alors pas sur le même tournoi, machin, mais tu as ce côté, c'était un peu... Je ne vais pas dire que c'était inexorable, mais ça lui pendait au nez, quoi. C'était pas possible que ça tombe pas. Que ça tombe sur ce dernier tournoi de l'année et que quelque part il goinfre 2 trophées en un, je trouve presque que c'est justice. Et surtout que ce bonhomme-là, on le dit à demi-mot depuis le début de ce podcast, Tommy Fleetwood, non seulement c'est un gars qui est vraiment apprécié du public, mais c'est un gars qui est apprécié d'à peu près tout le monde. Perso, moi, je le côtoie depuis qu'il a gagné sur le Challenge Tour, qu'il a gagné la finale du Challenge Tour. Alors, je te parle de 2000 et des boîtes. Le gars, il était hyper gentil, hyper cool, et il l'a toujours été. Il est toujours resté comme ça. Il est toujours accessible, ce bonhomme-là. Il a toujours une espèce de... C'est un bon gars. Je sais pas comment exprimer le truc autrement. C'est un vrai bon gars.
Donc, une image forte, Martin, c'est le troisième tour quand il met sa balle dans l'eau au 15.
Ouais.
Il va vers sa balle sur le green, à côté du green. Et là, il est forcément effondré parce qu'il vient de perdre un coup, voire deux coups sur ce trou. Et il continue de claquer les mains des spectateurs en allant jusque sur le green. Il tape la main avec tous les spectateurs qui sont là massés autour du green. C'est assez incroyable. Ce garçon, effectivement, il fait l'unanimité. C'est un exemple.
Et ce même jour, il fera birdie 17-18, hein, je crois d'ailleurs, réparer son erreur sur le 15. Fabien voulait intervenir.
Oui, c'était inexorable, oui et non, parce qu'on a connu un paquet de mecs qui ont vécu des désillusions et une échelle moins, et qui ont totalement disparu. Hein. On pourrait citer pas mal d'exemples. Je pense que ce garçon est rempli, et c'est pour ça qu'il est attachant et c'est pour ça que tout le monde l'aime, c'est qu'il est rempli d'humilité, il ne fait pas de bruit, il a une bonne dégaine, il a des yeux...
On a un petit problème de connexion, mais évidemment, on va retrouver Fabien dans quelques instants. Je vous lirai quelques déclarations de Tommy Fleetwood, mais c'est vrai que ce joueur, il arrive pleine balle. Est-ce que ça peut être, et on en reparlera de cette Ryder Cup, mais est-ce que ça peut être le leader justement de cette équipe, vu l'importance qu'il est en train de prendre ces dernières semaines?
C'est de fait un des leaders de cette équipe européenne depuis... J'ai presque envie de dire depuis Paris 2018.
Depuis 2018, oui.
Tommy et Francesco Molinari. Enfin, et Tommy, il s'est affirmé comme un pilier de cette équipe européenne, peut-être, ouais, clairement à ce moment-là, parce que il était incontournable, parce qu'il survolait le plateau, et que quand ce bonhomme-là...
C'est vrai qu'il prend moins de place que John Rahm. Il prend moins de place que Rory McIlroy. Les caméras ne sont pas braquées sur lui en permanence. Mais il est là, il répond présent. Et il l'a fait cette semaine, malgré tous les obstacles qu'il a dû affronter. Ouais.
Et il est à la fois un taulier de l'équipe depuis pas mal d'années, comme vous le dites. Et en plus, s'il y a quelqu'un qui est en forme en ce moment, c'est bien lui. D'autant plus avec ses trois places dans le top 5 et sa victoire.
Justin Rose, Rory, on va avoir une très belle équipe.
Et figurez-vous qu'on a failli faire le grand chelem dans les tournois des play-offs, hein, avec Rose, Fleetwood et évidemment McIntyre qui s'est coiffé sur le dernier tour par Scotty. Et là, ça aurait été un coup de semonce envoyé aux Américains, hein, vos play-offs. Ben, c'est nous qui en faisons notre affaire. Ça aurait été fantastique. Là. Enfin, comme message, ça aurait été hallucinant.
163 tentatives infructueuses, hein, sur le départ d'un PGA Tour pour Tommy Fleetwood. Voici ce qu'il a déclaré notamment. Ce n'était pas confortable aujourd'hui. Mon jeu était un peu erratique. Quand vous avez perdu autant de fois, trois coups d'avance, ce n'est pas tant que ça à la fin. Vous pensez qu'il a eu peur ?
Ouais.
Oui, il a vraiment eu peur.
Mais c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne s'en cache pas. Il ne s'en est pas caché. Il a clairement exprimé le fait que bah, les 5-6 premiers trous, il était dans son truc. Tu vois, il faisait bien le job, il était précis. Et puis à partir du 6 ou du 7, il a senti qu'il y a un truc déconné dans son swing. Il était moins synchronisé. C'est quelqu'un qui a un swing assez atypique dans le sens où... il fait beaucoup trois quarts de swing, c'est beaucoup dans le tempo, c'est beaucoup ensemble, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur une position de club. Je m'avance sûrement par rapport aux grands maîtres de la technique qui sont autour de moi, mais bon bref, et il le dit lui-même. Voilà. Il y a un moment, à partir du 7 ou du 8, il s'est cherché, il tape 2-3 mini-drivers qui ne lui portent pas comme il faut, et c'est là où à un moment, bah, soit tu te mets dans la mauvaise pente, soit tu commences à ouvrir un petit peu les épaules et à regarder un peu ce qui se passe autour de toi et à apprécier le moment. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et moi, justement, le voir taper les mains, comme tu disais, François, la veille, alors qu'il vient de taper un coup pourri, je me demande si ça ne fait pas partie du process, si ça ne fait pas partie du côté, tiens, profite du moment, regarde ce que tu fais de bien, profite des moments, ok, nourris-toi de la foule parce que les gens, ils ont envie de te voir gagner.
C'est ce qui s'est passé. Tu me parles du 8, mais moi j'ai deux autres exemples. Alors, il y a évidemment le 15 qui était le trou le plus dur du parcours à Atlanta. Le 15, moi j'ai vraiment eu peur pour lui, c'est-à-dire qu'il a envoyé une fléchette. Oui, je pense, mais il a envoyé une fléchette, il a dû se dire, si mon tournoi peut tourner, c'est maintenant. Ce coup est extrêmement dur à jouer, non?
Ah, il est très dur.
Enfin, je veux dire, ce par 3 de plus de 200 mètres.
Ah, on sent qu'il y a de l'adrénaline à ce moment-là, parce que la balle, elle traverse le green et on a peur qu'elle termine de l'autre côté, carrément, dans l'obstacle d'eau. La veille, il l'a mis dans l'eau et ça lui a coûté très cher. là, il avait vraiment en tête, à mon avis, au départ de ce trou, qu'il ne fallait pas faire de conneries, comme on dit. Et voilà, et il a réussi à la mettre quelque part autour du green et à faire un bogey. Finalement, ce n'est pas un mauvais score sur ce trou.
Et parfois, c'est un peu comme Rory quand il s'est cassé les dents au Masters. C'est qu'on s'est dit à quel moment il peut craquer, à quel moment l'autre peut revenir à un coup. Et je trouve que sur le 18, il a été extrêmement serein et je n'ai pas trop compris son choix du drive, parce qu'on sait que si vous avez le trou en tête, c'est un par 5. Si vous drivez, vous posez la balle près de l'eau et ensuite, il faut voler l'eau. Et il joue le drive alors que là, avec 3 coups d'avance, il peut jouer un fer, non ?
À ce moment, il s'écoute forcément. Il se dit, écoute, voilà, je suis à un trou de la fin, je sens le drive, je le sors. Il a évité de se poser trop de questions et de jouer du coup un bois de parcours hésitant, tout ça. Il a fait confiance à son instinct premier. Je joue le drive et ça a marché.
Oui, ça a marché, mais combien de fois on a dit, et pour un joueur français célèbre,
l'eau est loin quand même.
Il termine 30e à la driving distance du tournoi. Hein. Il est 30e sur 30. Hein. Donc c'est lui qui a le moins loin drivé de tous les joueurs.
Il y a un plan d'eau à gauche, il ne risque pas de l'atteindre avec la longueur qu'elle il est. Donc le drive était le bon choix. Maintenant, c'est facile de dire. Mais c'est vrai que sur le second coup, là, effectivement, on a vu à l'adresse pour le second coup, il s'est essuyé plusieurs fois les mains à sa serviette, etc. Effectivement, il lâche son coup à gauche. Il s'en sort pas trop mal avec le lie. Et là, effectivement, il a joué le second coup. Tant le premier, il le joue sans peur et sans reproche. Le second coup, il le joue avec beaucoup de doute. Et ça s'est vu avec une balle qui est partie à gauche où il s'en sort pas trop mal.
Je suis fier de ma carrière, c'est ce qu'il a dit hier, de ce que j'ai fait avant. Je suis très content de mon travail, très content de mon attitude et très content de cette victoire. Est-ce que vous avez l'impression que cette victoire, il est adoré ? Vous l'avez dit en Europe, il est même aimé aux États-Unis. C'est quelqu'un de bienveillant, on le sent et il le porte sur lui. Est-ce que vous pensez que ce joueur peut avoir encore une autre dimension ? Parce que vous avez fait la comparaison avec Rory tout en disant « Oui, mais c'est pas le cas de Rory, c'est pas l'aura de Rory. » Est-ce que cette victoire peut le propulser vers autre chose, François ?
Alors oui, c'est sûr que maintenant, ça va ouvrir des portes et ça va le libérer. Moi, j'ai des stats à vous donner. Vijay Singh, 31 de ses 34 victoires après 34 ans. Ben Hogan, 8 de ses 9 victoires. Alors là, c'est encore plus loin que
Oui, Martin. Mais ça parle à tout le monde, Ben Hogan.
8 de ses 9 victoires en majeur après 34 ans. Phil Mickelson, 5 de ses 6 majeurs après 34 ans. Kenny Perry, 12 de ses 14 titres sur le PGA Tour après 34 ans. Il a encore la voie royale qui s'ouvre à lui maintenant. Il n'y a pas de problème. Il va forcément en gagner d'autres et sans doute des majeurs. On l'attend sur des tournois majeurs maintenant.
Maintenant, on l'attend sur des majeurs, c'est ça ?
Ah bah oui, bien sûr. Surtout que s'il fallait bien qu'il y ait un gagnant, c'était bien Tour Championship. Avec tout ce que ça impacte derrière, 5 ans d'exemption, je ne parle même pas des primes FedEx, etc. Voilà. Donc là, effectivement, il change encore une fois, tant que c'était possible, il change de dimension. Et effectivement, prochaine étape, c'est un majeur, effectivement.
Il change de dimension. C'est vrai que quand on gagne la saison, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a un nouveau système de points maintenant, et ce tournoi s'est déroulé de façon inhabituelle, parce que celui qui termine premier à la FedEx n'avait pas de coup d'avance avant le début du tournoi. Donc c'est ce qui a permis cette victoire, évidemment, de Tommy Fleetwood. Sinon, il n'aurait jamais pu gagner.
Elle prend racine au mois de mai, quand le PGA Tour, il décide de changer le
exactement.
Le
on va y revenir, parce que je sais que Martin a des choses à nous dire là-dessus, mais tout de même, cette victoire, est-ce que ça le propulse autre part, ou ça lui fait juste du bien à lui? C'est-à-dire que, est-ce qu'on entre dans le grand livre d'histoire en gagnant la FedEx?
Je ne suis pas totalement méga giga persuadé, mais pour lui, je ne suis pas persuadé que ça change tant de choses que ça pour lui, parce qu'il a eu plein de fois des déclarations assez étonnantes de dire « Moi, des tournois du PGA Tour, j'en ai déjà gagné plein dans ma tête. » Tu vois, comme si le bonhomme était déjà se savait suffisamment bon pour avoir le niveau de gagner des tournois sur le PGA Tour. Après, il faut trophées, tu vois.
Mais il y a un déclic, là. C'est indéniable. C'est incontestable.
Je me doute que quand il va avoir le gros trophée, puis le gros chèque. Bon, le gros chèque, à la limite, pour ces gars-là, ils s'en foutent un peu, mais le gros trophée de la FedEx sur l'étagère, ouais, il va commencer à se dire, ça y est, je l'ai, là, celle-là. C'est un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça peut tant amener de déclic que ça, mais ça peut amener plus de certitude. Et des bons hommes comme ça, qui sont déjà des cadors installés au classement mondial depuis des années, qui d'un seul coup se prouvent à eux-mêmes qu'ils ont non seulement le niveau, mais que voilà, la vraie preuve, elle est sur l'étagère. Ouais, ça peut être des gars très très dangereux dans les années qui viennent. Et les stats que tu as donné, François, elles le prouvent. Tu vois, il est dans la pleine fleur de sa carrière. Et je suis même étonné que ça n'ait pas éclaté plus tôt.
Le déclic, Martin, il est énorme, parce que jusqu'à présent, il avait des repères quand il savait qu'il avait des repères qu'il avait identifiés quand il y avait des moments faibles au moment de gagner. Là, maintenant, il a des repères ultra positifs. Il a des repères Maintenant, quand il est un peu dans le dur, il sait comment il doit faire pour gagner. Donc là, c'est un déclic énorme. Et c'est un champ de vision totalement différent lorsqu'il sera encore en position de gagner.
Peut-être, mais on avait un peu ce discours. Alors, pas dans le Practice RMC, on n'existait pas encore, malheureusement. Mais en 2018, parce que je vous rappelle quand même son année 2018. Il fait deuxième de l'US Open. Il fait troisième au Masters. Il fait deuxième au British Open. Ça, c'est en 2019. Et en 2018, il fait aussi cinquième de l'USPGA. C'est-à-dire que cette année 2018 et 2019, il est au summum de sa carrière. Alors, il ne fait pas tomber des tournois, mais il ne fait que des top 5.
Bah, c'est toujours le même credo. Soit tu considères que tu es un très bon joueur sur la longueur, mais que tu gagnes peu, ou soit tu gagnes beaucoup et puis tu t'es un feu de paille.
Je vais aller plus loin. Est-ce qu'il a la dimension pour faire tomber des majeurs? Est-ce qu'il a la dimension, Rory McIlroy?
Quand tu as le palmarès que tu viens de dégrainer, quand tu as les résultats...
Mais le palmarès, tu sais très bien la différence entre une troisième place et une première place. Ça change tout dans une carrière quand même.
Il paraît, oui.
Non, mais il y a des tournois majeurs qui ont été remportés par des joueurs anonymes, entre guillemets.
Bien sûr.
Voilà, donc les majeurs, c'est autre chose. Il faut que ce soit la bonne semaine. Et voilà, là, c'était la très bonne semaine pour Tommy Fleetwood. Et ce le sera sans doute dans les prochains mois pour Tommy Fleetwood en majeur, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conviction personnelle.
Bon, on continue de débriefer ce tournoi parce que maintenant, il va falloir balancer quelqu'un, les amis.
Le Practice RMC.
Courbette !
Balance, balance !
Mais tu l'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a jeté !
Allez !
Tu l'as jeté !
Balance ton golfeur.
Positif, négatif, il faut balancer quelqu'un, Ramucho Artola. Ça m'a étonné ton choix. Tu veux balancer qui aujourd'hui ?
Ben, je veux balancer Seb Straka.
Très bon tournoi ce week-end.
Oui, il finit 30e de la Fédé.
Bah, 30e, c'est pas mal.
À plus
bon,
7.
C'était sur 30, mais vas-y.
Mais qui donne des inquiétudes quand même aux supporters européens, alors qu'il est un des piliers de l'équipe européenne et qui nous donne quand même quelques inquiétudes parce que, bon, outre sa première partie de saison où il a gagné deux tournois, donc il a fait une première partie de saison jusqu'au mois de mai-juin avec deux tournois, la MEX et le Trust Championship. Donc là, rien à dire. Et depuis le printemps, il n'y a qu'à voir déjà ses résultats en majeur. Il ne passe pas le cut au Masters, ni à l'US, ni à l'USPGA. Il finit 52 à The Open. Bon, on dit un petit coup de mou, mais c'est quand même des majeurs. Et là, du coup, à part sa 13e place au St. Jude, au premier play-off, il se retire du BMW. Là, il finit à plus 7, où il a 30e, donc au Tour Championship, où il passe ce tournoi un peu en fantôme. Et voilà, donc moi, je me pose des questions et je me mets à la place, si tant est que ce soit possible, hein, de Luke Donald, savoir si un mec comme Straka en fait confiance à son statut. Il est quand même 12e mondial, hein, il a quand même des tournois, des trois majeurs, il a été irréprochable dans sa première Ryder Cup.
Oui, puis tu l'as rappelé, on en parlait beaucoup en début de saison,
voilà,
en disant, dis donc, c'est l'Européen qui cartonne.
Où est-ce qu'on fait valoir sa forme actuelle qui, effectivement, peut laisser planer quelques doutes. Voilà.
Ok, Seb Straka, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr pour la Ryder?
Moi, personnellement, si j'ai capitaine, j'oublie mes formes actuelles et je ne me passe pas du 12e mondial. Voilà, ça c'est clair. Mais il donne quand même quelques petits signes d'inquiétude actuels.
Ok, la question se pose, et c'est vrai qu'on en reparlera, je le disais, vendredi dans l'épisode consacré à l'équipe européenne, parce qu'il ne fait pas partie des six qualifiés, notre ami Seb Straka. Je te voyais réagir sur Seb Straka. Tu le prends aussi pour la Ryder Cup, Luke Donald doit le prendre?
Tu le balances, mais au final, tu le prends. Donc, ce qu'il a derrière lui, c'est-à-dire la Ryder Cup précédente,
oui, bien sûr.
Sa saison, elle est remarquable quand même.
Il est absent des grands rendez-vous quand même. Enfin,
ouais, mais il a gagné.
Taper sur les doigts,
il a gagné.
Il a gagné, c'est clair, mais il rate 3 cuts sur 4 dans les majeurs. Là, il y a quelque chose qui se passe de façon, dans sa vie personnelle. Le golf s'en ressent malgré tout. Il finit plus 7, finit loin derrière. Voilà. Voilà.
Il y a encore un mois pour.
Voilà. Je pense. Mais j'essaie de me mettre dans la place d'un capitaine de Ryder Cup qui doit choisir entre les cadors, les piliers, les tauliers de l'équipe et dont il faisait partie, et quelqu'un qui, à ce moment, laisse planer quelques doutes.
Et on sait souvent qu'une Ryder Cup, certains capitaines choisissent la forme du moment. Ouais. Et parfois, ceux qui commencent à piquer un petit peu du nez peuvent être sortis de la liste, même si c'est un joueur confirmé, évidemment, de l'équipe européenne. Tu voulais balancer le format du tournoi, mon cher Marc.
Ouais, plus largement, le format des playoffs de la FedEx Cup qui me convainc toujours pas. Alors c'est cool, hein, depuis le mois de mai dernier que le PGA Tour ait décidé d'enlever cette fameuse avance, tu sais, que les meilleurs au classement de la FedEx avaient sur le Tour de Championship. Donc en gros, Scottie Scheffler serait parti avec 10 coups d'avance sur tout le monde. Et en gros, s'il avait fait les scores qu'il a fait cette semaine, il aurait gagné devant Tommy Fleetwood. Il aurait privé Fleetwood de sa belle victoire. Je ne suis pas convaincu parce que je trouve que même si tu enlèves ces points-là, tu restes sur un tournoi classique à 72 trous avec 30 joueurs. Ça manque un peu de créativité tout ça. Alors, tu pourrais te dire, ouais, on peut mettre un peu de match play là-dedans sur la dernière manche. J'ai pas l'impression, quand t'entends les joueurs, et en particulier Rory McIlroy, que ce soit une solution qui plaise beaucoup, parce que déterminer une fin de saison sur un tournoi de match play qui se joue très peu, en particulier aux États-Unis, bon, apparemment, ça a pas l'air d'être le truc. Mais par contre, moi, j'ai un vrai souci de lisibilité, en fait. De lisibilité sportive par rapport aux résultats de cette FedEx Cup, par rapport à la saison régulière, par rapport à la valeur qu'a une saison régulière sur le PGA Tour, sur une valeur de résultats moyens.
Pardon, mais la valeur de ce trophée, moi, je la mets en doute aussi. Personnellement, je la mets en doute.
Quand tu vois
que Tommy Fleetwood n'est pas le meilleur joueur de la saison.
Ce que tu dis, c'est contradictoire. Tu dis que tu es pour on enlève les points qui favorisaient les joueurs qui avaient bien performé tout le reste de la saison. Et du coup, que tu es content que le format soit comme ça. Mais finalement.
Non, je ne suis pas content que le format soit comme ça.
Rory McIlroy, qui a gagné un signature event,
c'est exactement
le Masters,
ce que j'allais dire.
Le Players, il termine 23e de la FedEx. C'est gravé dans le marbre.
C'est là tout le souci que j'ai avec ce format-là, au sens propre du terme. Que tu enlèves les points ou que tu les remettes, ça change pas grand-chose dans le sens où, à mon sens, ça fait trois fois sens. Un mec comme Patrick Cantlay qui finit deuxième de la FedEx Cup,
c'est pas possible.
Il y a aucune victoire et seulement 5 top 10 sur l'année.
Il a raté 3 cuts de majeur.
Non mais t'as envie de dire, hé les gars, ça va pas ou quoi?
Oui, ça va
et
pas
puis,
du tout.
Deuxième truc qui m'embête par rapport à ce format des playoffs de la FedEx, c'est que c'est pas vraiment des playoffs. Au sens où n'éjecte pas assez de mecs. Pourquoi on n'éjecte pas pourquoi on regarde pas les 16 meilleurs sur le Tour Championship? Et deuxième truc aussi par rapport à ce format-là, le parcours de East Lake à Atlanta, pour moi, c'est pas un parcours de championnat de fin d'année.
Il se défend pas assez.
J'ai rien contre ce parcours, mais il est chiant comme la pluie, il se passe rien.
Justement la pluie qui a un petit peu perturbé donne.
Mais la pluie en Géorgie en août, ça existe quoi, tu vois. Mais tu fais placer les 30 meilleurs joueurs de l'année, les fais placer pendant 4 tours pour déterminer qui sera le meilleur joueur de la saison. Pourquoi vous ne mettez pas, Pebble Beach ou des cathédrales de parcours comme ça pour vraiment finir la saison sur une note complètement starbée. Donc moi j'ai un vrai souci, juste pour terminer, sur la lisibilité sportive et sur la lisibilité de qui est le meilleur joueur de la saison sur le PGA Tour avec ses playoffs.
On rappelle que le format a changé en mai. C'est vrai que c'était quand même une surprise. On change en mai, on n'accorde plus de points d'avance à ceux qui ont bien performé tout au long de la saison. Ça te gêne, ça, François?
Ah oui, ils ont solutionné en fait le problème de l'argent. C'est-à-dire qu'on distribue l'argent avant le dernier tournoi et après le dernier tournoi, on distribue le titre. Mais au moins, l'argent, on le sécurise. Tu prends tes 10 millions parce que tu as terminé premier de la FedEx régulière. Et toi, tu prends tes 7 millions. Rory, il a pris ses 7 millions. Mais au final, qu'on détermine le grand vainqueur de la saison sur un tournoi sans points, avec pas de points octroyés d'avance comme c'était le cas précédemment, ça m'embête. C'est pas normal. Scheffler, c'est le numéro 1 incontestable. Il termine 4e de la FedEx. Patrick Cantlay, comme vient de le dire Martin Coulon, c'est pas normal qu'il soit 2e de la FedEx. Il fait rien de la saison.
Non. Ramucho.
Je suis encore une fois pas d'accord avec Martin. Je suis désolé. C'est rare, hein. Mais
encore
là, je vois pas pourquoi le match play viendrait fausser les cartes, même si Rory, c'est manifesté là-dessus. Bon, il n'a pas. Pas tous les joueurs non plus, tu vois. Donc, on en a déjà parlé, mais je trouve qu'on pourrait scinder la saison régulière, terminus obidam, la prime au premier de la saison régulière et les 70. Et du coup, ça mettrait en avant un exploit quand même sportif. Les 70 recommencent un nouveau tournoi qui s'appelle les playoffs.
Et on part à zéro.
On repart à zéro.
Très bonne idée d'un match.
À zéro, alors soit sur des formats stroke play, mais pourquoi pas. Du coup, terminer en apothéose avec un tableau de match play, avec des têtes de série.
Je suis d'accord parce que tu prends les 16 meilleurs et à l'issue des premiers tours de play-off, t'en as 16 qui sont qualifiés. Tu fais le premier contre le 16e, le deuxième contre le 15e, enfin mode États-Unis. Enfin, je veux dire, ils savent faire quand même en NBA. Ah, oui. Pourquoi t'as pas ça?
Parce qu'on est très très conservateur. Alors, regarde le parcours.
Non, mais
on reste
Les joueurs prétextent que toute l'année on joue en stroke play et qu'ils ne veulent pas terminer la saison en match play.
Je sais pas.
Mais après, il y a autre chose où je suis assez d'accord, c'est sur le tournoi de la FedEx, quand tu as un Scottie Scheffler qui est monstrueux et qui a 10 coups d'avance, C'est un
non,
peu
il a 10 coups d'avance. Il a 10 coups d'avance. Attention, il faut modérer tout ça. Il a 10 coups d'avance sur le 11e ou le 12e.
Oui,
les autres,
il a que 2 coups,
coups sur
voilà,
Rory. Sur Fleetwood, il aurait eu 5 coups et il aurait gagné d'un coup. Ça aurait été fabuleux. Le suspense aurait été top le dernier jour. Ça aurait été parfait. Moi, je trouve que ce format-là, il avait quand même certains avantages.
Ouais, mais il a le désavantage de cette lisibilité et de ce côté un peu immuable. Ah bah, quand t'as un bonhomme qui gonfle toute la saison...
Il n'aurait pas gagné son tournoi, son premier tournoi.
On n'aurait pas fait cet épisode aujourd'hui.
Mais moi, ce qui m'embête vraiment pour finir là-dessus, c'est que ce ne sont pas des vrais play-offs. Des play-offs en NBA, c'est 1-1. Bah oui. Et c'est la meilleure équipe sur ce match-là qui gagne. Ce n'est pas forcément le favori qui gagne. La grande majorité du temps, c'est les meilleures équipes qui vont au bout. Ok. Mais tu peux avoir des surprises et c'est le principe du play-off, c'est qu'il y ait des surprises.
Alors, la NBA encore, c'est sur 7 matchs.
Ouais, en plus.
Si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Donc, ça équilibre un petit peu et ça permet à l'équipe qui est favorite, même si elle se plante une journée ou deux matchs, elle peut revenir. Là, c'est vrai que c'est
oui,
coupé tout de suite.
C'est la carte rabattue. Ouais. Il y a cet intérêt de play-off qu'on repart à zéro. Ouais, les cartes sont rabattues.
Pourquoi voilà, ça, pas c'est... On trouvera pas. Je pense qu'on ne trouvera pas le format idéal. Mais. Moi, le match play, effectivement, c'est celui qui me séduit le plus.
En tout cas, cette formule ne vous plaît pas, on l'a bien compris, parce que c'est vrai qu'une victoire de Tommy Fleetwood...
Elle nous fait très plaisir.
Très plaisir, mais comme grand joueur de la saison et qui résume la saison, c'est un peu particulier. Et c'était aussi important de le dire dans ce numéro. Pour terminer, François, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce tour championship qui t'a déplu ? Est-ce que tu as envie de balancer quelqu'un ?
Patrick Cantlay, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. C'est pas possible le temps qu'il prend pour jouer. C'est pas possible. Ils ont été chronométrés, ils avaient un trou et demi de retard après 9 trous. L'arbitre est venu les voir. Il leur a signifié, comme le veut la règle, qu'ils étaient en retard et qu'il fallait qu'ils accélèrent. Mais celui qui aurait dû prendre des points 2 trous plus tard, c'est Patrick Cantlay. Il dépasse régulièrement les 40, les 50 secondes quand il joue en premier, les 40 secondes quand il joue en deuxième. Le temps imparti pour jouer, c'est pas possible. Et même la façon dont il se place devant la balle en rajoute, ça fait qu'on a l'impression qu'il s'éternise des heures avant de jouer. Voilà, Patrick Cantlay, c'est pas possible.
Et juste pour.
Et il va finir en Ryder Cup. Il va être en Ryder Cup et il va avoir son comportement exécrable en Ryder Cup. Ça va être terrible.
Il s'est quand même foutu de la gueule du monde. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais après le dernier drive du 18, lorsqu'il a tapé son drive, il a commencé à courir légèrement pendant 50 mètres. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais il s'est réveillé là. Je ne sais pas s'il avait les caméras.
Il s'est dit, bon, ça fait 6 heures, peut-être qu'il faut que je me dépêche.
Je commence à marcher un peu rapidement. Et puis, il a commencé à courir sur les départs jusqu'à arriver à sa balle. Il avait 50 mètres d'avance. C'était ubuesque. Ça a duré 3 secondes, mais c'est une image qui est assez révélatrice, son comportement, je trouve.
Ok, bon, on va arrêter là-dessus. C'est vrai que Patrick Cantlay, on aura le temps d'en reparler durant la Ryder Cup. Merci les copains d'avoir été avec nous. François Simeka, je le rappelle, le boss de Golf Planet. Si vous voulez tout savoir sur le golf, c'est très simple, c'est golfplanet.com. Il va se passer quoi là dans les prochains numéros ? Vous allez être à fond Ryder Cup, non ?
Ah bah là, ça y est, oui. Là, ça y est, on va tourner la page du PGA Tour. On va se concentrer sur la Ryder Cup. Il y a les annonces qui arrivent très vite, donc... Ce mercredi pour Keegan Bradley et lundi prochain pour de Luke Donald. Donc on va être à fond là-dessus.
Et tu sais quoi, tu restes avec nous parce que vendredi, on a besoin de tes lumières pour nous parler de l'équipe européenne, mais aussi de quelques déclarations, notamment d'un Français, Adrien Sadier, qui n'aime pas le système de qualification de l'équipe européenne de Ryder Cup. Donc on te retrouve vendredi dans ce podcast. Merci à vous, la Dream Team, le Practice RMC sera donc disponible vendredi pour le 49e numéro de la saison. En attendant, l'Insta évidemment du Practice RMC. D'ici là, bon golf à tous. Salut.
Le Practice RMC.